dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Je pense que j'ai été toujours fascinée par cette misère-là et comment les circonstances, le contexte, etc. font que des personnes touchent le fond. La France reste, chez toutes les personnes que je reçois, la France reste un pays d'accueil et le pays des droits de l'homme. Donc ils mettent beaucoup, beaucoup d'espoir dans le fait de pouvoir se refaire une vie, se reconstruire ici en France. Marx disait que le capitalisme a besoin d'une armée de réserve. Et l'armée de réserve, ce sont les migrants, ce sont les pauvres, ce sont les travailleurs les plus pauvres qu'on peut exploiter sans mesure. On se trouve confronté à l'inimaginable. Un impensable, c'est-à-dire qu'il y a des situations, moi-même, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse exister. Tout mon travail, je pense, c'est de pouvoir permettre qu'ils retrouvent contact avec une force de vie, une force de combat.
Annie Aon est psychologue de métier. Dès l'installation d'un CADA dans le sud Aveyron, elle s'est portée bénévole pour aider à l'accueil des demandeurs d'asile.
Depuis, elle écoute, elle soutient et elle accompagne les réfugiés dans leur combat pour la dignité. Écouter l'indicible et son quotidien. Redonner de l'espoir là où il y en a si peu est le devoir qu'elle se fixe.
Mais au-delà de tout ça, alors que les murs et les frontières s'érigent autour de nous, alors que la loi immigration rend la vie impossible aux réfugiés atteints d'une OQTF, ordre de quitter le territoire français, alors que les dépressions, la culpabilité, l'anxiété, la honte et l'isolement sont leur quotidien, Annie Aon les accompagne afin qu'ils retrouvent de la combativité, afin qu'ils retrouvent une force de vie.
Annie Aon est une rebelle. Assez têtu pour continuer à croire, même contre toute évidence, qu'il vaut la peine d'être des hommes et des femmes humanistes.
Elle est de ceux qui espèrent garder vivante la certitude qu'il est possible d'être contemporain de tous ceux qui vivent animés par le désir de justice et de beauté, où que nous soyons et où que nous vivions, car, ainsi que le disait Mimmo Lucane en 2022, les cartes de l'âme et du temps n'ont pas de frontières.
À l'écoute des invisibles, les réfugiés, avec Annie Aon, psychologue, sur Dissonance.
Je m'appelle Annie, je suis psychologue clinicienne, orientée par la psychanalyse. J'ai un long parcours en humanitaire et puis dans un travail bénévole. Ce que je peux dire, c'est que si je tire un fil rouge par rapport à ma vie jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours été auprès des plus démunis. Comment tout ça s'est construit ? Ça me relie à mon enfance. Je suis née dans les cités de l'abbé Pierre. Ces cités ont été construites après l'appel vibrant de l'abbé Pierre après l'hiver terrible de 1954. Et cet appel concernait les mal logés. Donc mes parents avaient pu bénéficier, mon père était tout ouvrier, avait pu bénéficier d'une maison dans ces cités. Et ces cités, c'était les ancêtres des HLM, et on y regroupait tous les ouvriers pauvres, enfin toute la misère sociale était regroupée là. J'y suis restée jusqu'à l'âge de mes 8 ans, parce que ma mère n'avait de cesse que de vouloir nous sortir de là. Mais moi, j'étais très attachée à cette cité. Toutes les personnes qui y habitaient, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et ça a été pour moi un grand déchirement. Et donc, je pense que je n'ai eu de cesse ensuite, tout au long de ma vie, de pouvoir retourner auprès de ces personnes et quelque part de réparer un peu la situation qui leur était faite.
Et c'est pour ça donc qu'il y a eu l'humanitaire, le parcours dans les maraudes.
Alors l'humanitaire, en 1980, je commence à travailler à l'hôpital psychiatrique et mon premier poste, j'atterris dans une unité de l'hôpital psychiatrique qui accueillait ce qu'on appelait des arriérés profonds. En 1980, la psychiatrie de secteur bat son plein, donc on ouvre les hôpitaux, on crée des CMP, mais ces patients qui étaient jugés inéducables, irrécupérables, n'intéressaient plus personne, et ils étaient là, dans des pavillons de relégation, où en fait les soignants n'avaient pour mission que de leur assurer, entre guillemets, ventre plein et cul propre, donc ils vivaient dans des conditions indignes. Et je ne m'imaginais pas en 1980 que tout cela pouvait exister. Et avec un groupe de collègues résistants, de ceux pour qui tout ça ne va pas de soi, avec l'aide d'un médecin-chef nouvellement arrivé, le docteur François Grisoni, on a commencé à essayer de leur rendre une vie plus digne, leur donner des vêtements corrects, pouvoir les sortir. Certains n'étaient jamais sortis de leur unité. Et pour moi, ça a été un combat qui a duré 12 ans. Le docteur François Grisoni, à qui je rends hommage aujourd'hui, avait par ailleurs fondé en France un institut de formation. Et donc, je me suis formée avec lui dans cet institut pendant plus de 25 ans. Et dans cet institut de formation, on a eu un jour envie de créer une association à but humanitaire, en se disant que bon, ben, c'était intéressant tout ça, on travaillait sur nous, on faisait de la thérapie individuelle, de la thérapie de groupe, on se formait, mais voilà, il y avait quelque chose qui manquait à notre vie, c'était cet aspect-là. Et donc, ensemble, on est parti en Inde, pour chercher des contacts, et à partir de là, l'aventure a commencé. Donc, par la création d'un premier dispensaire à Chennai, dans le Tamil Nadu, un deuxième dispensaire dans un village de pêcheurs à Pondichéry. Ensuite, on a obtenu une subvention importante de l'Union européenne, donc on a construit un dispensaire dans un village au nord de Pondichéry, Seliamedu, où là, on a mis en place une école de couture et du soutien scolaire pour les enfants. Et donc, on allait régulièrement en Inde pour des missions et on travaillait en collaboration très étroite avec les personnes sur place qui assuraient la continuité quand on n'était pas là. On est resté en Inde jusqu'en 2008 à peu près, puis les besoins en Inde ont été moins criants. L'Inde assurait, enfin, notamment le Tamil Nadu, assurait la prise en charge sanitaire de ces populations. Donc on s'est orienté sur le Népal, où on a pu faire bénéficier de notre expérience en Inde des villages népalais, surtout autour de Katmandou. Alors, l'accompagnement des personnes sans domicile en France part de ma réflexion sur mon investissement humanitaire en Inde. Et je trouvais que ça restait très ponctuel, c'était à distance, etc. Donc, à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir une action bénévole plus locale et plus régulière. Et donc, une amie médecin me dit un jour, écoute, moi j'accompagne les maraudes pour les aspects médicaux, Est-ce que ça t'intéresserait de faire les maraudes avec moi? Et toi, tu assurerais la partie soins psychiatriques et soins psychologiques. Et donc, à partir de là, j'ai donc suivi les maraudes et mené des entretiens cliniques dans la rue avec les personnes qui dormaient dehors. Donc, j'appelle ça, moi, une clinique de l'extrême, parce que le cadre était complètement différent hein, que le cadre d'un hôpital ou que d'un cabinet. Mais la régularité des maraudes faisait que je pouvais suivre ces patients. On dit qu'ils sont sans domicile fixe, mais le mot fixe n'est pas exact, parce que on les retrouvait au même endroit toutes les semaines et pendant toute la saison. Les maraudes commençaient en octobre et se finissaient vers avril-mai. Et donc ça permettait d'avoir ce suivi-là. D'ailleurs, pas mal de personnes m'attendaient pour pouvoir parler, raconter leur histoire, etc. Et donc, c'était quelque chose de très important, à côté du fait qu'on leur servait aussi des repas. Mais je me suis rendu compte que le plus important, parce qu'ils se débrouillaient tous pour avoir de la nourriture, pour manger à leur faim, parce que les commerçants étaient aussi impliqués, tout ça se passait sur Avignon. Donc, bon, ils avaient des systèmes de survie tous. Et que donc c'était très important aussi qu'ils puissent avoir un médecin par rapport au problème de santé et puis quelqu'un à qui ils pouvaient se confier. Dans le même temps, avec le CHRS d'Avignon,
C'est quoi, CHRS?
c'est un centre d'hébergement et de réinsertion, donc qui accueille les gens dans la rue, hein, on téléphone au 115, je crois. Ils demandent une place d'hébergement pour la nuit et donc le CHRS a des places pour les hébergements d'urgence ou pour des hébergements un peu plus longs. Et le CHRS était en charge du SAMU social. Donc avec le directeur, je lui propose de mettre en place un groupe de parole destiné donc aux résidents du CHRS, mais où pouvaient venir aussi toutes les personnes qui étaient dans la rue et qui... C'était le lundi soir. Le lundi soir pouvait venir dans ce lieu où il pouvait parler de ce qu'il vivait. Je pense que j'ai été toujours fascinée par cette misère-là et comment les circonstances, le contexte, etc., font que des personnes touchent le fond.
C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires? Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier du chien qui erre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air, que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière, sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?
À l'écoute des invisibles, les réfugiés, avec Annie Aon, psychologue, sur Dissonance.
Alors justement, si tu veux bien, Annie, on va parler de cette misère spécifique qui touche les réfugiés, oui. Puisque aujourd'hui tu travailles auprès du CADA Sainte-Afrique. J'ai lu un mémoire que tu avais fait, travail clinique auprès des résidents du CADA Sainte-Afrique Millau, qui est passionnant. C'est quoi la spécificité d'une clinique des réfugiés?
Alors,
ce sont des gens que tu accueilles, donc ils arrivent en France. Ils ont de l'espoir au départ parce qu'ils espèrent avoir le statut de réfugié. Mm-hmm. Et puis quand ils l'ont, c'est mieux. Mais quand ils l'ont pas, ils vont être expulsés. Ils ont ce qu'on appelle un OQTF. Comment tu peux les accompagner, ces gens qui rêvent et puis ces gens qui n'ont plus rien?
Alors ce qui est très important, c'est mon statut d'indépendance par rapport au CADA. Parce que j'ai un statut de bénévole, donc je ne suis pas rattachée directement à l'équipe. Je reçois ces personnes dans mon cabinet, en libéral, comme si c'était des patients lambda. Et donc je peux les accompagner aussi quand ils sortent du CADA et qu'ils n'ont pas pu obtenir leur statut de réfugié. Voilà. Alors quand je parle d'une clinique spécifique, c'est que face à ces personnes, on est devant, pour moi, un trépied qui est la dépression, parce qu'ils ont vécu des pertes successives. La perte de leurs proches, la perte de leur pays, la perte aussi d'espoir, voilà. Et donc ces pertes successives, voilà, fait que chez toutes ces personnes, il y a des aspects dépressifs extrêmement importants. Quand on pense, par exemple, que certaines ont dû laisser un de leurs enfants confié à des voisins, à une famille, pour pouvoir fuir le plus rapidement possible, qu'ils ont laissé des familles là-bas qui sont aussi en danger par rapport à leur implication politique dans leur pays, etc. Donc cela crée forcément des états dépressifs extrêmement importants.
Oui, d'ailleurs, tu parles de clinique du deuil, du traumatisme, de la précarité, de la transculturalité, et tu parles même d'une clinique que tu appellerais psychopolitique, quand la petite histoire rencontre la grande histoire.
Oui, effectivement, donc la dépression et le psychotrauma, parce que ce sont des personnes qui ont vécu des graves traumatismes. Un traumatisme et un psychotrauma, c'est quand les personnes ont vécu des situations qui les met face à une mort imminente. Voilà, donc traumatisme, ça peut être des tortures, des exactions, des menaces, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui concerne la terreur qui est exercée sur leur personne. Parce que les réfugiés politiques ont vécu des persécutions par rapport à leur position politique sous certains régimes, par rapport à leur genre aussi, ou à leur choix sexuel, des persécutions qui concernent aussi les mutilations par rapport aux femmes, au traitement des femmes dans certains pays. Donc ils ont tous vécu des événements extrêmement graves.
Et ils ont idéalisé la France alors aussi. Ils pensaient qu'en fuyant leur pays, ils allaient trouver un Eldorado.
Oui, la France reste, chez toutes les personnes que je reçois, la France reste un pays d'accueil et le pays des droits de l'homme. Donc ils mettent beaucoup, beaucoup d'espoir dans le fait de pouvoir se refaire une vie, se reconstruire ici en France.
Tu les accompagnes, toi, psychologue, dans cet espoir ?
Alors, mon travail, bien sûr, c'est d'être à leur côté et de les aider à ne pas baisser les bras. Voilà, donc, pour qu'ils ne baissent pas les bras, j'ai aussi besoin d'avoir une certaine dose d'espoir et de pouvoir les soutenir. La déontologie auquel je me réfère me permet d'avoir des outils et de pouvoir les soutenir. J'ai un long parcours thérapeutique personnel, j'ai un long parcours de supervision de ma pratique, j'ai toujours été en formation continue, permanente. Je me réfère à la psychanalyse. La psychanalyse, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous dit que la position du psychologue est une position subversive, c'est-à-dire qu'on doit toujours pouvoir faire un pas de côté, se décaler des situations pour trouver une troisième voie. Donc tout ça me soutient dans ma pratique et m'aide à pouvoir aussi aider les personnes que je reçois. Je disais aussi que cette clinique, c'est une clinique que j'appelle psychopolitique. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement important, avec ces personnes-là, de pouvoir situer les responsabilités. Et donc, la responsabilité de ce qui leur est arrivé relève d'un contexte, donc du contexte politique du pays d'origine, aussi d'un contexte géopolitique. Ce contexte géopolitique va aussi beaucoup conditionner le fait qu'ils puissent obtenir leur statut de réfugié, parce que tout ça relève aussi de contractualisation entre la France et le pays d'origine.
Voilà, si le pays d'origine est considéré comme un pays dangereux, la France va faciliter l'accueil du réfugié, mais s'il n'est pas considéré, par contre, il y a quand même des mafias ou un système mafieux ou des violences intrafamiliales ou des choses comme ça, la France ne le reconnaît pas comme un pays qui permettrait d'attribuer le statut de réfugié à un ressortissant de ce pays-là.
Oui, bien sûr, on a beaucoup de mal, certaines personnes, à obtenir leur statut de réfugié dans des pays mafieux, en fait. Parce que l'organisation des pays mafieux, c'est que les personnes s'endettent pour trouver de l'argent. Ils vont faire appel à des mafias qui ensuite augmentent les taux d'intérêt. Enfin, on connaît un peu le système. Ces personnes-là ne peuvent plus rembourser ce qu'ils doivent et sont menacées de mort. Leurs familles sont menacées de mort, etc. Ils subissent aussi des persécutions. Mais ces systèmes-là ne sont pas vraiment reconnus. Ce qui n'est pas reconnu aussi, c'est tous les pays où règne la corruption, où il n'y a pas de justice, où la justice est bâclée. Moi, j'ai en tête des situations où, pour des agressions et des viols, il y a eu procès, mais un procès où où les agresseurs ont été très libres très vite, quoi, hein. Donc, très libres très vite, en contact avec leurs victimes, etc., quoi. Ou alors des régimes où les procès sont truqués et où les opposants politiques peuvent au niveau du tribunal, avoir des jugements qui sont totalement faussés, avec des accusations infondées. Voilà, souvent des accusations de trafiquants de drogue, alors que ce sont des opposants politiques, quoi, hein. Et ils risquent, et la plupart font de la prison, des prisons où règne la torture et les mauvais traitements.
D'une pays étrange, d'une la mort. C'est un gars, il est vivant, flouté, tchon, louvain train l'air, sur le ballon des sondes. D'une pays curieuse, d'une la mort, il y a des pitchons. Y a des grands.
Algunos pueden ser padres, otros parecen ser niños. Los grandes barcos de contenedores odian cruzarse con estos cruceros de peces raros. La verdad es que los ignoran magníficamente. Peces raritos en el mar, stripish en el mar, son più di cento. Galleggiano in un verso o nell'altro, tra le onde indifferenti. Certi hanno occhi spalancati, certi sono coperti di sangue. Strani pesci nel mare, vestiti di indumenti.
Degli pesci strani di la mare che sei vesti. Leisa, 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 Leisa.
Parle de poisson dans la mer, il n'en paraît bien vivant.
Leisa, 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 Leisa.
Il flotte le ventre en l'air, ballotté par les courants. Dans la mer, il y a des petits et des grands. Certains sont peut-être pères, d'autres on dirait des enfants. Les grands pocs de conteneurs n'aiment pas croiser leurs bancs. Et les bateaux de croisière les ignorent superbement. Poissons dans la mer qui portent des vêtements.
À l'écoute des invisibles, les réfugiés, avec Annie Aon, psychologue, sur Dissonance.
Comment tu peux, toi, Annie, c'est ce qui m'interroge, accompagner des gens qui, donc tu sais pertinemment que, vu le pays d'où ils viennent, vu la politique d'accueil de M. Macron, c'est voué à l'échec.
Mon travail d'abord, c'est de les aider dans leur souffrance aussi. Donc je crois en ce que je fais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la prise en charge et du traitement psychologique, la dépression s'améliore, le psychotrauma s'améliore. Donc, ils retrouvent aussi des forces. Et puis, j'essaie aussi avec eux de m'appuyer sur ce qu'ils peuvent trouver ici aussi. Les enfants sont scolarisés au niveau du système de santé. Heureusement, l'AEME a été l'aide d'État médicale a été remise dans la nouvelle loi sur l'immigration. Ils peuvent bénéficier de soins. Là, je rencontre une personne qui est arrivée avec la typhoïde et qui a stationné en Italie. En Italie, il n'a pas pu bénéficier de soins. Et dès son arrivée en France, il a pu être soigné. Et donc, lui, il rend grâce au gouvernement français. Et avant chaque séance, il remercie l'État français d'avoir été soigné. Voilà. Et donc, ça aussi, ça entretient leur espoir. Ce dont je parle aussi avec eux, c'est de tout le système de solidarité qui existe ici en France et partout en France, je pense, où quand ils sont déboutés. Déboutés, c'est quand ils n'obtiennent pas leur statut de demandeur d'asile. Mais la voie de l'intégration en France n'est pas finie, parce qu'après, ils peuvent toujours demander des régularisations administratives au titre de séjour pour intégration, etc. Donc leur parcours n'est pas fini. Et quand ils sont déboutés, ils trouvent des associations pour les recueillir.
Est-ce que tu as affaire des fois à des couples où il y en a un qui culpabilise parce qu'il a vu sa situation, il a mis en danger sa femme, ses enfants, ou sa femme qui a mis en danger son mari, ses enfants? Tu as travaillé sur ça aussi, la déculpabilisation?
J'ai à travailler sur la déculpabilisation. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, effectivement, se sentent responsables de ce qui leur est arrivé et culpabilisent par rapport à leur engagement politique qui a conduit leur famille là où ils en sont. Alors la culpabilisation, elle est personnelle, mais aussi dans les familles, l'épouse peut rendre responsable son mari de la situation et parfois même les enfants. Donc, le cas de mon intervention auprès de ces personnes est très large. Je suis obligée d'adapter le cadre. Je ne peux pas rester stricto sensus dans des entretiens en face à face dans mon cabinet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les structures suffisantes aussi pour que je puisse adresser le conjoint à une collègue, et moi suivre l'épouse, une autre suivre les enfants, etc. etc. Le système de soins ici en France, et notamment la psychiatrie, étant exsangue, il n'y a pas ces ressorts-là. Donc souvent, je reçois la personne, mais je reçois aussi le conjoint, je reçois aussi les enfants, et je suis amenée aussi à intervenir auprès des enfants, parce que les enfants peuvent être aussi très virulents auprès de leurs parents en disant « si on est dans cette situation, c'est à cause de vous ». Et donc, la clinique psychopolitique dont je parle est extrêmement importante pour resituer les responsabilités. Non, ces personnes ont été prises dans un contexte, ils n'ont pas eu d'autre choix. Je pense aussi qu'ils ont eu raison de résister à des régimes politiques de type dictatorial. Donc je parle de tout ça aussi avec les conjoints et avec les enfants.
Justement, les enfants, comment ils vivent ces situations où ils ont des échos par les autres copains à l'école ? Ton papa va partir, ou ton papa n'est pas d'ici, ou ton papa, je sais pas.
Alors les enfants, évidemment, ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'aide autour d'eux. Et donc j'ai en tête des enfants d'une famille qui répètent sans cesse, mais pourquoi maman, tous ces gens sont là pour nous aider, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui les rend différents par rapport aux autres enfants. Par contre, les enfants ont des capacités d'intégration qui sont extraordinaires, c'est-à-dire ils peuvent, en 6 mois, ils apprennent la langue, ils parlent le français correctement, sans accent, etc., même en prenant l'accent de l'Aveyron. Et ils ont cette capacité de vie, de pouvoir se faire des copains. Donc, les procédures sont très longues. Donc, les procédures qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, les enfants, ils sont d'ici. Le pays d'origine, c'est un pays lointain, c'est le pays de leurs parents, ce n'est plus leur pays. Voilà, ils sentent voilà, qu'ils sont différents et qu'ils sont décalés par rapport aux autres enfants. Et donc ils vivent aussi douloureusement le risque d'expulsion de leurs parents. D'autant si c'est médiatisé. Voilà, parce que la médiatisation d'une famille qui est sous le coup d'une OQTF, avec la solidarité et la mobilisation qui se crée autour d'eux, fait que les enfants sont interpellés beaucoup. Alors, il paraît que tu vas partir, moi je veux pas que tu partes, et quand est-ce que tu pars, etc. etc. Donc, ils sont mis là-dedans, et ça peut être très, très anxiogène pour eux, très, très inquiétant.
Dans tous les pays du monde, tu esquives les frontières. Brillant son calais, Nice, Cerbère, Andaille, pas Saint-Tropez. La peur, le froid, le noir, vivre libre est un droit. C'est ce que tu crois, plus moi, c'est ce que tu crois, plus moi. Bafoué, traqué, chassé, cogné aux ordres du préfet. Puni, raillé, touché, mourir, vive l'ordre policier. Que font ces gens enfermés? Personne ne donne de réponse. Elle ne coûte pas cher ta vie au pays de l'utopie. Exploitation, ménage, poubelle ou livraison. C'est ça ton horizon, non, placement en rétention. Garde à vue retenue, tout nu, on t'interdit de rêver. Régime autoritaire, terre, loi d'exception bidon. Décision judiciaire, pas fière, bouc émissaire, pas cher. Politique assassin, malsain, anéantissement. Que font ces femmes enfermées? Médias fachos, dodo. Elles ne coûtent pas cher ta vie au pays de l'utopie. Dans toutes les villes de France, ton malheur fait carrière. Grillage et barbelé, hors d'âge, étranger sans visage. Interdit les sourires, rire, ton délice est souffrir. Naufrage de dignité, pitié, traumatisé l'État. Partout des caméras, c'est ça la France, je crois pas. Liberté, égalité, truquée, fraternité manquée. Misère, enfant enfermé, et citoyen révolté. Vite reviens, Voltaire, où est le chemin des lumières?
À l'écoute des invisibles, les réfugiés, avec Annie Aon, psychologue, sur Dissonance.
Tu parles dans ton texte et dans ton écrit de le réfugié porte en lui un impossible à dire. Comment tu arrives à créer un climat de confiance alors qu'ils ont raconté des histoires horribles aux gens de l'OFPRA à Paris, à leur avocat pour le CNDA? Et toi, tu arrives à les mettre en confiance?
Alors, le travail avec le trauma est très spécifique. C'est-à-dire, un trauma constitue une rupture. Il y a toujours un avant et un après. Donc mon travail consiste à pouvoir créer un pont entre l'avant et l'après, pour faire en sorte que cette rupture diminue au fil des séances. Donc, bien évidemment, ça passera par pouvoir me raconter ce qu'ils ont subi. Mais c'est des fois, quelquefois, extrêmement long. Extrêmement long, par exemple, j'ai aussi en tête l'exemple d'une personne qui, au bout de 2 ans de prise en charge, me dit les séquelles physiques qui sont les siennes liées à l'agression qu'elle avait subie. Il a fallu 2 ans pour qu'elle puisse évoquer ce fait-là. Donc cela nécessite vraiment une régularité de la prise en charge. Bien sûr, donc la question de la création d'une alliance thérapeutique, c'est-à-dire que qu'ils soient assurés que tout ce qu'ils disent dans le cabinet, ça reste dans le cabinet, qu'ils peuvent librement dans le cabinet parler de leur histoire, qu'ils ne seront pas jugés par rapport à ça. Et la question aussi pour moi, c'est que on se trouve confronté à l'inimaginable, c'est-à-dire un impensable, c'est-à-dire que il y a des situations, moi-même je n'aurais jamais imaginé que cela puisse exister. Je ne vais pas ici développer, parce qu'après c'est de l'ordre un peu du sordide, mais même moi je me sens pris par quelque chose d'impensable et d'inimaginable. Mais mon travail, c'est de pouvoir imaginer ce qu'ils ont vécu, imaginer l'imaginable, pour leur permettre à eux aussi de pouvoir le penser, tout ça, de pouvoir le dire et de pouvoir le penser, et de pouvoir mettre des mots là-dessus. Alors, mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, ça, c'est mon travail. J'imagine ce qu'ils ont vécu. Et ensuite, je peux mettre des mots dessus. Et mettant des mots dessus, ça leur permet, eux, de pouvoir les mettre aussi. Alors, ça, c'est un travail très, très, très important.
Et ça leur permet aussi de ne pas avoir honte de ce qu'ils ont vécu, de pouvoir l'assumer, de pouvoir...
Oui, alors la honte, au fond, la honte, elle reste. Il y aura toujours quelque chose d'un difficile à dire, d'un difficile à partager. Il faudra du temps, des années et des années. Il faut bien se mettre dans l'idée qu'il y a une cicatrice qui ne s'effacera jamais. L'événement aura toujours eu lieu. Donc le travail, c'est aussi de faire en sorte que cette cicatrice, elle soit de moins en moins douloureuse. Mais la cicatrice, on ne peut pas effacer ses souvenirs, quoi. Mais il y aura moins de cauchemars, il y aura moins de flashbacks dans la journée, de reviviscences, etc. La culpabilité va aussi s'estomper, etc. Et puis, l'autre aspect, c'est que donc, je travaille beaucoup sur, au départ, sur le fait de les pouvoir, moi, les reconnaître comme victimes, et dans les entretiens, que ce mot de victime soit là. Mais ça, c'est une étape, parce qu'ensuite, je travaille beaucoup sur leur responsabilité. Alors, qu'est-ce que j'entends par responsabilité ? Ils ont vécu ça, on ne pourra pas l'enlever. Leur responsabilité, maintenant, c'est de comment ils vont vivre et prendre la responsabilité de leur vie en ayant vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, je leur dis qu'ils ne sont pas que victimes, mais qu'ils sont aussi responsables, acteurs de ce que va être leur vie avec ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est extrêmement important, parce que je me souviens donc d'une dame avec qui je travaillais cette question, et qui me dit, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée avant de m'endormir, je pense, Annie m'a dit, tu n'es pas que victime, tu n'es pas que victime. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant et comment tu vas vivre avec ça? Et son témoignage m'a beaucoup touchée parce qu'elle disait que c'est ce qui l'aidait à s'endormir et ce qui l'aidait aussi à tenir debout. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix de faire avec. Mmh. Voilà. Et ce que je leur dis aussi, c'est que s'ils restent victimes, leurs agresseurs continuent à les agresser. Et continuera à les agresser tant qu'ils décideront un jour que stop, ça suffit.
ينقص في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية تنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناء علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتي وتلك قضية وتلك قضية كيف نام قرير العين وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكذابة كيف يسير ومن أين تؤتى؟
À l'écoute des invisibles, les réfugiés, avec Annie Aon, psychologue, sur Dissonance.
Depuis fin janvier, la loi immigration a relancé les OQTF, bien sûr, mais sauf qu'ils ne font plus un an, c'est 3 ans. Donc avant, on disait, tu as un OQTF, tu te fais discret, et pendant un an, tu attends. Là, pendant 3 ans, moi j'appelle ça un tunnel sans issue, quoi. Comment... où est l'espoir, là?
Alors, il est vrai que l'espoir, c'est un mot un peu difficile à exprimer, parce que les personnes que je reçois sont en souffrance. Donc, ce qui est premier, c'est la dépression et c'est l'anxiété. C'est le trauma. C'est la culpabilité. C'est la honte. Donc, il est très difficile, quand je les reçois, de pouvoir parler d'espoir. Donc, quelque part, on n'est pas dans ce registre-là. Mon travail, je pense, que c'est de pouvoir leur redonner une combativité, c'est-à-dire de sortir de cet état dépressif.
Oui,
pour qu'ils retrouvent une force de vie.
Voilà, la douleur, c'est important. Espérer, c'est attendre et combattre, c'est se bouger.
Et ce que je remarque, c'est ce travail d'autant plus difficile qu'ils sont soumis à des rejets successifs. C'est-à-dire qu'avant les entrevues avec l'OFRA ou avec la CNDA, ils sont extrêmement anxieux. L'OFRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est un organisme administratif. Donc c'est lui qui dit si vous pouvez effectivement obtenir le statut ou pas. S'ils sont rejetés à l'OFRA, s'il y a un rejet, ils peuvent faire recours à la CNDA, Cour nationale des demandeurs d'asile. Ça, c'est un organisme juridique. Ils vont passer devant un juge. Ils vont pouvoir faire recours et appel devant un organisme judiciaire avec la présence d'un avocat pour défendre leur cause. Mais toute cette procédure est très anxiogène pour eux. Et souvent, ça réveille les traumas. Souvent, les cauchemars recommencent. Souvent, les reviviscences recommencent, etc., etc. Donc, tout mon travail, je pense, c'est de pouvoir permettre qu'ils retrouvent contact avec une force de vie, une force de combat.
J'ai du mal à imaginer comment ils peuvent faire, quoi, quand ils vont d'échec en échec, on obtient l'OQTF, et puis il faut aller pointer à la gendarmerie, et puis là on vous prend le passeport, et on les voit toujours dignes, toujours... c'est ton boulot, c'est de les rendre...
J'apprends aussi beaucoup de ces personnes, hein. J'apprends beaucoup de... Je trouve tout le temps qu'ils ont à nous apprendre... qu'on a beaucoup à apprendre d'eux par rapport effectivement à leur position toujours très digne, par rapport aussi aux épreuves et à la force que ça leur donne aussi de pouvoir continuer, de pouvoir se battre alors pour leurs enfants, pour leur avenir. Moi j'ai toujours en tête une jeune maman. Son témoignage, enfin son histoire a été plus ou moins mise en défaut à l'OFRA, à la CNDA, en disant mais on n'y croit pas beaucoup, etc. Un jour dans le cabinet, elle se met à crier je ferai tout pour que ma fille ne retourne pas dans mon pays, pour qu'elle ne vive pas ce que moi j'ai vécu. Et dans ce cri, je sentais que c'était là sa vérité, quoi. Et je sentais dans ce cri aussi la force qu'elle mettait à préserver aussi sa fille de ce qu'elle avait vécu.
Ouais, c'est vrai. Mais nous, après... résidents français, on sait qu'il y a les centres de rétention, que le gouvernement est sans pitié. Moi, j'appelle ça la face cachée de la République, que ces gens-là, ils ne sont pas visibles pour plein de raisons, et notamment parce que les associations qui les accompagnent ne veulent pas médiatiser trop pour pas que ça retombe sur les enfants. Donc, on se sent démunis, quoi. On fait tout. Il y a le judiciaire, mais heureusement qu'il y a des gens comme toi.
Eh bien, aussi, peut-être que... les militants ou les bénévoles de toutes ces associations Ils auraient besoin d'être soutenus aussi dans leur travail au quotidien auprès de ces personnes pour être aidés.
Et toi, comment tu fais, Annie? C'est ce qui m'intéresse. Comment tu fais pour toute cette misère du monde, des réfugiés qui te tombent dessus, comment tu digères tout ça?
Je crois que j'aime profondément être auprès de ces personnes.
Les invisibles.
Moi, j'aime être avec les fous. Mais quand je dis fous, c'est les décalés, c'est ceux à la marge, c'est les hors normes.
Il y a une chanson magnifique de Paco Ibáñez qui dit « Il n'y a plus de fous en Espagne ». Et pour lui, les fous, ce n'est pas les dérangés, c'est les marginaux, les Don Quichotte, tout ce qui se révolte par l'humanité qui voit passer.
Oui, parce que ces personnes-là qui viennent ici, il faut imaginer qu'ils ont eu la ressource pour quitter leur pays. Ils avaient ce désir de vie en eux pour fuir. Oui, il faut dire aussi que jamais on ne quitte un pays par plaisir. C'est les conditions de vie dans le pays qui font qu'on est obligé. Ce n'est pas un choix de quitter son pays. Si on pose la question aux personnes, ils seraient restés chez eux. Ça les coupe de leur culture, ça les coupe de leur famille, ça les coupe de leurs racines. Certains savent qu'ils ne pourront jamais plus retourner dans leur pays, que cette coupure elle est définitive. Donc c'est assez terrible de pouvoir imaginer cette situation. Mais ce sont des survivants, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de vivre et pour vivre, ils ont décidé de fuir et de se battre.
Merci Annie.
Salut.
Et fraternité.
Il y en a locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. ya no hay locos, y ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos.